des livres plein les oreilles. Chers amis qui écoutez Canal M, qui écoutez CKVL, qui êtes branchés sur les podcasts, soyez les bienvenus à cette émission hebdomadaire des livres plein les oreilles qui, comme son titre l'indique, se vautre littéralement dans les livres qui s'écoutent. Alors aujourd'hui, on va ouvrir avec un livre jeunesse qui va plaire un grand nombre d'adultes, de ceux qui aiment se noyer littérairement parlant dans du, vous savez, le genre gothique, glaçant et émouvant. Ça, bon, ça s'appelle Galant, c'est de V.I. Schwab, pour Victoria Elisabeth Schwab. Alors, on va y jeter une oreille, et puis on va aussi aller jeter une oreille sur ce qui se fait en audio en Belgique. Et ça, je pense bien que c'est la première fois que je fais ça, dans le cadre de cette émission-là. Et non, il n'y a pas qu'Amélie Nothomb qui écrit des livres au pays de Brel et de Tintin. On va notamment découvrir la plume d'Adeline Dieudonné et d'Emmanuel Pirotte. Le classique de la semaine conjugue la plume française de la comtesse de Ségur avec la voix d'Angèle Coutu, qui lit pour vous Les Deux Nigauds. Le livre audio qui m'avait échappé sera Ça raconte Sarah, de Pauline Delabroix-Allard. Gérald Cousineau, cette semaine, a écouté pour nous Beyrouth sur scène de Sabil Goussoub. Et nous finirons avec deux nouveautés, dont Le Petit Dernier de Guillaume Musso. Galant, donc, de Victoria Elisabeth Schwab, lu par Lionel Monnier, c'est édité par les éditions Télém. Ça nous dit jeunesse, mais ça nous dit également adulte. On nous dit dans la description que toute chose projette une ombre, même notre monde. Toute petite, Olivia Prior a été déposée sur les marches de l'orphelinat où elle vit désormais. Elle est incapable de parler. Elle n'en sait pas moins se faire respecter des autres pensionnaires. De sa mère, il ne lui reste plus qu'un journal intime relié de cuir, plein de dessins étranges, marqués par la folie, dont les derniers mots sont « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galant ». Mais la jeune fille ne rêve que d'une chose, c'est avoir un jour une famille. Alors quand elle apprend que son oncle l'a enfin retrouvée et l'invite à venir vivre dans le domaine familial de Galant, Olivia n'hésite pas une seconde. Alors elle découvre surtout que, d'abord que son oncle est bien mort et enterré depuis déjà plusieurs mois, et puis elle remarque que tous les habitants du manoir semblent éviter comme la peste le mur qui s'élève derrière la propriété, nichée au milieu d'une nature absolument luxuriante. Alors voilà, qu'est-il arrivé à Olivia, à la mère d'Olivia, toutes ces années plus tôt? C'est ce que vous pourrez apprendre en lisant ce livre ou en l'écoutant, Galant, dont je vous propose un extrait. Je vous rappelle que c'est lu par Lionel Monnier.
La voilà désormais dans l'abri de jardin. Elle aimerait pouvoir faire autant de vacarme que la pluie sur le toit de tôle, ramasser l'une des pelles abandonnées pour en cogner les murs, histoire d'en écouter le tintement. Mais on pourrait l'entendre, venir la chercher, dans ce cabanon dérobé. Or, si c'était le cas, elle n'aurait plus nulle part où se cacher, loin des autres orphelines, loin des sœurs, loin de Marylands. Elle retient son souffle et appuie sa main brûlée sur la paroi d'acier froid, dans l'espoir de calmer la douleur. La cahute en soi ne constitue pas un secret. Elle se trouve derrière l'orphelinat, au bout d'un chemin de gravier, au fond du domaine. Au fil du temps, quelques-unes des pensionnaires ont bien tenté de se l'approprier pour fumer, boire ou se bécoter, mais une seule visite suffit à les dissuader de revenir. Cet endroit leur donne la chair de poule, à ce qu'elles disent. Sans doute la terre humide, les toiles d'araignée et ce petit quelque chose qui leur fait froid dans le dos, même si elles ne savent pas quoi. Olivia, elle, sait. C'est la faute de la créature morte dans le coin, ou plutôt de ce qu'il en reste. Ce n'est pas vraiment un fantôme, juste des vêtements en lambeaux, quelques dents plus un œil, un seul, endormi, qui flotte dans le noir. Le spectre bouge comme un poisson d'argent à la périphérie du champ de vision d'Olivia, avant de filer chaque fois qu'elle regarde vers lui. En admettant qu'elle puisse rester immobile et fixer un point droit devant elle, Une pommette apparaîtrait peut-être, puis une gorge. La créature pourrait se rapprocher, cligner de l'œil, sourire et lui souffler dessus, le corps en apesanteur, telle une ombre. Elle s'est déjà interrogée, bien sûr, sur l'identité de cette silhouette macabre, lorsque cette dernière était encore faite de chair et d'os. L'œil unique plane, pas à la hauteur de ceux d'Olivia, mais plus haut, et une fois, elle a aperçu le bord d'une cornette, l'ourlet effiloché d'un jupon, au point de se demander si elle n'était pas en présence d'une des sœurs de Marylands. Au fond, peu importe. Désormais, ce n'est qu'une goule qu'elle sent rôder dans son dos. « Va-t'en !» pense-t-elle. Le spectre est-il capable de lire dans son esprit ? Peut-être, car il tressaille avant de se retirer dans les ténèbres, la laissant seule dans le sinistre cabanon. Olivia s'adosse au mur de tôle. Plus jeune, elle se plaisait à penser qu'elle était chez elle et non à Marylands, que ses parents venaient de sortir en lui confiant le ménage, qu'ils allaient revenir, bien sûr, une fois que la maison serait en ordre. À l'époque, elle balayait la poussière et les toiles d'araignée, empilait les tessons de poterie, rangeait les étagères. Mais ses efforts pour nettoyer la petite cahute importaient peu. Elle n'était jamais assez propre pour les inciter à revenir. On choisit l'endroit où on se sent chez soi. Ces 10 mots figurent seuls sur une page du journal intime de sa mère, au milieu de tant de blancs qu'ils ressemblent à une devinette. En fait, tout ce qu'elle a écrit est une énigme qui n'attend que d'être résolue. À présent, la pluie a troqué son martèlement contre un tapotement plus léger de doigts un peu las. Olivia sort de sa cachette en poussant un soupir. Dehors, tout est gris. Gris. Le jour qui commence à s'assombrir en une nuit pareillement grise. Grise, la faible lumière qui lèche le chemin de gravier. Gris, lui aussi. Grise, la pierre des murs de Marylands, maison d'éducation pour jeunes filles.
D'où elle finira par partir pour aller rejoindre la maison de Galant où il ne fallait surtout pas qu'elle aille. Extrait de Galant de Madame Schwab, lu par Lionel Monnier. J'ai pour habitude de dire que je parle beaucoup des livres audio qui naissent dans toute la francophonie, mais ai-je déjà parlé d'autres auteurs que d'Amélie Nothomb qui sont enregistrés dans leur pays d'enfance, de naissance, c'est-à-dire la Belgique. En Belgique, il y a les éditions Autrement dit qui œuvrent dans le secteur du livre audio, entre autres, hein, parce qu'ils font plein de choses dans le milieu littéraire. Ce sont principalement chez Autrement dit, vous pourrez aller voir, ils ont un site qui s'appelle Autrement dit, ce sont principalement des audiolivres de réédition d'ouvrages qui ont été préalablement succès en format imprimé. Et puis, j'avais envie de vous citer quelques auteurs parmi eux que l'on retrouve donc en livre audio et ce sur d'ailleurs tous les catalogues. Et notamment Adeline Dieudonné, qui a été sélectionnée pour le Goncourt, le Renaudot et le Goncourt des lycéens et qui a connu un succès fracassant avec un livre qui s'appelle « La vraie vie » et paru aux éditions de l'Iconoclaste. « La vraie vie » a été enregistrée chez Lizzy. « La vraie vie », ce roman a obtenu le prix FNAC en 2018, a obtenu le prix Première Plume du Furet du Nord en 2018 aussi. Bernard Pivot a qualifié cette écriture d'étincelante et Amélie Nothomb parle quant à elle d'un vrai tour de magie. Alors, on va écouter un extrait de ce livre, La vie est vie, d'Adeline Dieudonné. Maison, quatre chambres, celle du frère, la sienne, celle qui écrit, celle des parents et puis celle des cadavres. Extrait.
À la maison, il y avait quatre chambres. La mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres. Des daguets, des sangliers, des cerfs et puis des têtes d'antilopes de toutes les sortes et de toutes les tailles. Springbok, impala, gnou, oryx, kobu, quelques zèbres amputés du corps. Sur une estrade, un lion entier, les crocs serrés autour du cou d'une petite gazelle. Et dans un coin, il y avait la hyène. Tout empaillée qu'elle était, elle vivait, j'en étais certaine, et elle se délectait de l'effroi qu'elle provoquait dans chaque regard qui rencontrait le sien. Au mur d'un des cadres, mon père posait, fier, son fusil à la main, sur des animaux morts. Il avait toujours la même pose. Un pied sur la bête, un poing sur la hanche, et l'autre main qui brandissait l'arme en signe de victoire, ce qui le faisait davantage ressembler à un milicien rebelle shooté à l'adrénaline du génocide qu'à un père de famille. La pièce maîtresse de sa collection, sa plus grande fierté, c'était une défense d'éléphant. Un soir, je l'avais entendu raconter à ma mère que ce qui avait été le plus difficile, ça n'avait pas été de tuer l'éléphant. Non. Tuer la bête était aussi simple que d'abattre une vache dans un couloir de métro. La vraie difficulté avait consisté à entrer en contact avec les braconniers et à échapper à la surveillance des gardes-chasse. Et puis prélever les défenses sur la carcasse encore chaude. C'était une sacrée boucherie. Tout ça lui avait coûté une petite fortune. Je crois que c'est pour ça qu'il était si fier de son trophée. C'était tellement cher de tuer un éléphant qu'il avait dû partager les frais avec un autre type. Ils étaient repartis chacun avec une défense. Moi, j'aimais bien caresser l'ivoire. C'était doux et grand. Mais je devais le faire en cachette de mon père. Il nous interdisait d'entrer dans la chambre des cadavres. C'était un homme immense, avec des épaules larges, une carrure d'écarisseur, des mains de géant. Des mains qui auraient pu décapiter un poussin comme on décapsule une bouteille de coca. En dehors de la chasse, mon père avait deux passions dans la vie, la télé et le whisky. Et quand il n'était pas en train de chercher des animaux à tuer aux quatre coins de la planète, il branchait la télé sur des enceintes qui avaient coûté le prix d'une petite voiture, une bouteille de Glenfiddich à la main. Il faisait celui qui parlait à ma mère, mais en réalité, on aurait pu la remplacer par un ficus, il n'aurait pas vu la différence. Ma mère, elle avait peur de mon père. Et je crois que, si on exclut son obsession pour le jardinage et pour les chèvres miniatures, c'est à peu près tout ce que je peux dire à son sujet. C'était une femme maigre, avec de longs cheveux mous. Je ne sais pas si elle existait avant de le rencontrer. J'imagine que oui. Elle devait ressembler à une forme de vie primitive, unicellulaire, vaguement translucide. Une amibe. Un ectoplasme, un endoplasme, un noyau et une vacuole digestive.
Un extrait de La vraie vie, écrit par Adeline Dieudonné et lu par elle-même d'ailleurs, que vous retrouvez aux éditions Autrement dit, et l'édition littéraire belge qui se consacre notamment au livre audio. Il y en a d'autres, hein, des auteurs qui sont représentés chez eux en audio. Jean Perrier, Odilon Jean Perrier, Laurence Vieille, Jean-Philippe Toussaint, et puis Emmanuel Le Pirotte, qui représente ici le roman historique auquel j'aime bien maintenant accorder une place dans le cadre de cette émission. Il y a son livre « Loup et les hommes » lu par Lazare Herson Macarel pour les éditions Sixth Read. On est en hiver 1663 avec le marquis de Canillac qui est prêt à tout pour retrouver le saphir entrevu au cou de cette jeune Amérindienne croisée dans un salon parisien. Il a reconnu la pierre que portait son frère Loup, Loup trahi par Armand 20 ans plus tôt et condamné aux galères et que tout le monde croyait mort. On va assister à la rencontre dans ce salon parisien en 1663 entre Armand, le marquis de Carnillac, et cette jeune Amérindienne.
Je me demande, marquis, ce qui nous vaut cette mine ombrageuse. Canillac lui répondit par un soupir. Il était médusé depuis qu'il avait vu cette femme, troublé jusqu'au plus profond de lui-même. Aussitôt entré dans la chambre, il avait été envoûté par sa voix grave et voilée. Il s'était arrêté, étourdi, et l'avait cherchée du regard. Et elle lui était apparue, calme et souveraine, les bras nonchalamment déposés sur les accotoirs. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans. Ses vêtements, sa coiffure était absolument exotique, mais ses traits et son maintien dépassaient en singularité et en mystère tout ce que le marquis avait jamais pu contempler. Dans son visage hiératique et anguleux, seuls les yeux clairs et perçants se mouvaient vivement, allant d'une personne à l'autre avec un intérêt très vague. Sa bouche large et charnue se fendait parfois d'une amorce de sourire énigmatique. Quand son regard accrocha le sien, Canillac fut cloué sur place, incapable de faire un geste. Une immense terreur s'empara de lui, une sorte de panique infantile, irrépressible. La jeune femme continuait de le couver impitoyablement, lui sembla-t-il, de ses yeux d'un bleu fulgurant. Elle se leva enfin, salua rapidement les silhouettes qui agitaient leurs dentelles autour d'elle et s'avança vers lui. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle le frôla, si près qu'il put sentir l'odeur de sa peau sous le parfum, voir briller un instant le saphir serti de diamants qui luisait au bout d'une chaîne d'or à la naissance de ses seins. La lumière qui irradiait de ce bijou lui rappela soudain quelque chose d'enfoui et de douloureux. Il revit une main large et expressive, une main d'homme, pâle et ferme, une main familière. Le temps que cette image surgisse du tréfonds de sa mémoire pour y disparaître aussitôt, la femme était déjà à la porte. Il put encore voir l'épais chignon piqué de plumes d'aigle, l'amorce de son profil, l'éclat jeté par les chandelles sur sa pommette saillante. Un laquais ouvrit la porte et elle disparut dans un bruissement d'étoffe. Le marquis resta longtemps immobile au milieu de la pièce, entravant le va-et-vient des invités et des domestiques. Il finit enfin par se mouvoir, alla s'affaler près de l'âtre et n'en bougea plus, les yeux rivés aux flammes, l'esprit embué, les sens à vif, une douleur sourde vrillant chaque parcelle de son être. Madame de Grandpin l'observait en silence. Elle quitta le lit, s'assit dans le siège à côté du sien et posa sa petite main baguée sur l'accotoir du marquis. « C'est cette femme, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle très bas. Canillac ne répondit rien, mais son amie sentit qu'elle avait deviné juste. Elle tapota tendrement le velours comme s'il s'agissait de la main du marquis, regarda le vieil homme avec une sollicitude et une bienveillance qui ne lui procurèrent cette fois aucun réconfort. Canillac émergea de ses pensées et dit de sa voix feutrée, en posant sa main sur celle de Madame de Grandpin, « Que savez-vous d'elle ?»« Bien peu de choses en vérité, des rumeurs dont il est impossible de dénouer le vrai du faux. Elle vivrait en Nouvelle-France, on l'a dit mariée à un colon. Elle est apparue à Paris pour la première fois l'an dernier, voilà tout ce que je peux vous en dire. »« Son nom ?» Brune Archambault.
Il y a une rubrique que j'ai instaurée depuis quelques semaines à cette émission, c'est le livre audio qui m'avait échappé. Cette fois-ci, ce sera « Ça raconte Sarah » de Pauline Delabroix à l'art. C'est lu par Clara Brachtmann. Et avant d'écouter un extrait de ce livre, laissez-moi vous lire ce qu'en dit Julien Rampin, qui est lui-même auteur et surtout grand amateur de littérature, et il écrit assez régulièrement sur Babelio. Et au sujet de « Ça raconte Sarah », j'aurais vraiment pas pu mieux dire que ce qu'il va nous dire maintenant. Alors Juju, parce que c'est comme ça que son site s'appelle, c'est la bibliothèque de Juju, vous pourrez aller la voir vous-même, écrit « Ça raconte Sarah, ça raconte une histoire d'amour, que l'on vit, que l'on pleure, que l'on prend en pleine gueule. » Jamais écriture ne t'avait trituré à l'intérieur de cette façon. Ça virevolte, ça farandole, ça t'écrabouille le cœur et ça te laisse pantelant, émerveillé, bluffé. Ça prête à rire, peut-être à souffrir, mais ça va à toute allure et ça t'ébranle à l'intérieur. Ça parle d'amour fort, d'amour vrai, ça fait parfois si mal que ça t'essouffle un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et ça t'envole haut, très haut. Ça fait de la musique, du rock'n'roll, une symphonie, ça fait valser les mots, ça va vite, très vite, trop vite. Alors écoutons cet extrait de « Ça raconte Sarah » et qui est une histoire d'amour entre deux femmes qui n'ont jamais aimé une de leurs semblables. Mais là, elles sont littéralement passionnées.
Ça raconte Sarah, sa beauté inédite, son nez abrupt d'oiseau rare, ses yeux d'une couleur inouïe, rocailleuse, verte. Mais non, pas verte, ses yeux absinthe, malachite, vert-gris rabattu, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte le printemps où elle est entrée dans ma vie comme on entre en scène, pleine d'allant, conquérante, victorieuse. 2. C'est un printemps comme un autre, un printemps à rendre mélancolique n'importe qui. Il y a des magnolias en fleurs dans les squares parisiens, et j'ai dans l'idée que ça écorche le cœur de ceux qui les remarquent. Moi, ça m'écorche le cœur, les fleurs de magnolia dans les squares. Je les regarde chaque soir en rentrant du lycée, et chaque soir, leurs grands pétales pâles me piquent un peu les yeux. C'est un printemps comme un autre, avec des averses impromptues, l'odeur du macadam mouillé, une sorte de légèreté dans l'air, un souffle de joie qui chantonne combien tout est fragile. Ce printemps-là, je marche comme un fantôme. Je mène une vie que je ne pensais pas mener, une vie seule avec une enfant dont le père a disparu sans crier gare. Un jour, un soir plutôt, il est sorti de l'appartement et puis... Et puis plus rien. Alors comme ça, c'est possible. Que du jour au lendemain, je veux dire littéralement du jour au lendemain, entre deux personnes qui s'aiment depuis des années, il puisse ne plus y avoir de regard, ni de parole, ni de dialogue, ni de discours, ni de fâcherie, ni de complicité, ni de tendresse, ni d'amour. C'est cette folie, cette aberration qui me constitue de jour en jour. Je pense que la vie va s'arrêter là. Je n'espère rien, ni personne. Il y a un nouveau garçon dans ma vie, un garçon bulgare. Quand je parle de lui, je dis « mon compagnon ». Il m'accompagne, voilà, c'est ça. Il m'accompagne dans cette vie chagrine. J'attends. Un mot tourne de manière lancinante dans ma tête, le mot « latence ». Je me dis qu'il faudrait que j'en cherche la définition dans le dictionnaire. Je sais que je suis en train de vivre un moment de latence. Je ne sais pas combien de temps ça va durer et par quel événement ça prendra fin. En attendant, tous les jours se ressemblent un peu, entre mes obligations de jeune mère, mes obligations de jeune professeur, mes obligations de fille, d'amie, d'amoureuse du garçon bulgare. Je m'applique à vivre la vie. Je ne la vis pas vraiment. Mais je suis bonne élève. Je tire la langue avec concentration. Je suis bien habillée, polie, charmante. Je parcours les rues du 15e arrondissement à bicyclette, mon enfant dans un siège derrière moi. Nous allons au musée, au cinéma, au jardin des plantes. Je me trouve jolie. On me dit gentille, attentive aux autres. Je ne fais pas de vagues. Je suis la mère d'une enfant parfaite, la professeure d'élèves remarquables, la fille de parents merveilleux. La vie aurait pu continuer comme ça encore longtemps. Un long tunnel, sans surprise, sans mystère.
Et oui, mais voilà, il y aura Sarah. Et la vie, tout d'un coup, va changer. Pour finir cette première partie de l'émission des livres pleins les oreilles, je vous propose le classique de la semaine. Aujourd'hui, Les deux nigauds de la comtesse de Ségur, lu par Angèle Coutu. Oh, nous sommes là avec, oh que c'est délicieux, Simplicie et son frère, qui s'appelle Innocent. Ce sont deux enfants, ils vivent dans la campagne bretonne. Ils ne rêvent que d'une chose, vivre à Paris. Alors ils supplient leurs parents et finalement ils partent pour la capitale accompagnés de leur bonne. Leur bonne s'appelle Prudence. Alors nous avons Simplicie, Innocent et Prudence. Mais les désillusions arrivent vite car ces deux enfants gâtés, suffisants, hein, orgueilleux, ne comprennent pas l'accueil que leur réservent les Parisiens. Alors nos deux nigauds finissent par comprendre que la campagne et leurs parents valent largement bien leurs désirs vaniteux. C'est une comtesse de Ségur, un livre de la comtesse de Ségur particulièrement amusant qu'elle nous propose là. Et alors, lu par la charmante et la délicieuse Angèle Coutu, ben là, on se rue dessus et on écoute.
Monsieur et Madame Gargellier étaient seuls dans leur salon. leurs enfants, Simplicie et Innocent, venaient de les quitter pour aller se coucher. Monsieur Gargilier avait l'air impatienté. Madame Gargilier était triste et silencieuse. « Savez-vous, cher ami, dit enfin Monsieur Gargilier, que j'ai presque envie de donner une leçon, cruelle peut-être, mais nécessaire, à cette petite sotte de Simplicie et à ce Benet d'Innocent.
Quoi ? Que voulez-vous faire ? Répondit Madame Gargilier avec effroi.
Tout bonnement contenter leur désir d'aller passer l'hiver à Paris.
Mais vous savez, mon ami, que notre fortune ne nous permet pas cette dépense considérable. Et puis votre présence est indispensable ici pour tous vos travaux de ferme, de plantation. Aussi, je compte bien rester ici avec vous.
Mais comment alors les enfants pourront-ils y aller?
Je les enverrai avec la bonne et fidèle Prudence. Simplicie ira chez ma sœur Madame Bombec, à laquelle je vais demander de les recevoir chez elle en lui payant la pension de Simplicie et de Prudence, car elle n'est pas assez riche pour faire cette dépense. Quant à Innocent, je l'enverrai dans une maison d'éducation dont on m'a parlé, qui est tenue très sévèrement et qui le dégoûtera des uniformes dont il a la tête tournée.
Mais, mon ami, votre sœur a un caractère si violent, si emporté. Elle a des idées si bizarres que Simplicie sera très malheureuse auprès d'elle.
C'est précisément ce que je veux. Cela lui apprendra à aimer la vie douce et tranquille qu'elle mène près de nous, et ce sera une punition des bouderies, des pleurnicheries, des humeurs dont elle nous ennuie depuis un mois.
Et le pauvre Innocent, quelle vie on lui fera mener dans cette pension?
Ce sera pour le mieux. C'est lui qui pousse sa sœur à nous contraindre de les laisser aller à Paris, et il mérite d'être puni. On envoie dans cette pension les garçons indociles et incorrigibles.
Ils lui rendront la vie dure, j'en serai bien aise.
Quand il en aura assez, il saura bien nous l'écrire et se faire rappeler. Et Prudence,
elle est bien bonne, bien dévouée, mais elle n'a jamais quitté la campagne et je crains qu'elle ne sache pas comment s'y prendre pour arriver à Paris.
Eh bien oui, ils vont y arriver à Paris et ils vont en revenir aussi sec parce que ça ne va pas leur plaire du tout. En fait, ce n'est pas Paris qui ne va pas leur plaire, ce sont plutôt les Parisiens. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'une des livres plein les oreilles. C'est réalisé, animé pour vous par Clotilde Seille avec l'appui indéfectible de l'ami Mathieu Tessier et on vous dit à plus tard. Des livres plein les oreilles, seconde partie. Et pour commencer, Monsieur Gérald Cousineau nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Il a écouté et certainement réécouté et certainement réécouté pour nous Beyrouth sur scène de Sabil Goussoub. Et j'en ai d'ailleurs un extrait à vous présenter, lu par Sabil Goussoub lui-même. Et puis au chapitre des nouveautés, à la fin de cette chronique, le dernier Guillaume Musso, qui s'appelle quelqu'un d'autre, et Laure Calamy. Vous connaissez peut-être le nom de cette jeune femme qui est un peu la nouvelle coqueluche féminine du cinéma français. Elle a lu « Si tout n'a pas péri avec mon innocence » d'Emmanuel Le Bayamac Tam. Alors, on rejoint tout de suite Gérald Cousineau. Salut Gérald.
Salut Clotilde.
Beyrouth sur scène, je dois dire que j'adore ce titre.
Oui, c'est vrai, hein, monsieur Sabil Goussoub.
Oui.
C'est pas un nom commun, ça, hein,
non,
Sabil
non.
Goussoub. Donc, livre publié en 2022 qui a gagné le Goncourt des lycéens. Alors, c'est un monsieur qui est né en 1988, donc il n'est pas vieux, hein, c'est un jeune écrivain. Mm-hmm. Mais il n'est pas qu'écrivain, il est également chroniqueur, journaliste, photographe, etc. Okay. Donc, il est né en 88 d'une famille libanaise, mais il est né à Paris. Mmh. Et c'est quoi ce livre? Eh bien, il veut interroger ses parents, en particulier son père. Qu'est-ce qui a amené ses parents à venir vivre, à venir s'installer à Paris en septembre 1975? Mmh. Or, on devinera très vite que c'est parce que, en avril 1975, éclate une guerre civile au Liban qui a malheureusement fait beaucoup de mal, beaucoup de victimes et qui a duré longtemps. Alors, ses parents, croyant passer 2 ans à Paris, ben non, ne sont pas retournés au Liban. Ils ont vécu à Paris une bonne partie de leur vie, finalement. Et le garçon, Sabil, lui, naît donc en 1988. Et là, il veut vraiment savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a amené ses parents-là. Mmh. Alors, il va les interroger. Il va interroger le père, il va interroger la mère. Or, ses parents, il les considère un peu comme des personnages de roman. Et c'est vrai. D'ailleurs, parlant de personnages, au tout début du livre, il présente les personnages comme si on était au théâtre. Hmm. C'est-à-dire un tel, voilà, l'oncle, la tante, etc. Donc, c'est assez amusant. Donc, il raconte la vie qu'ont menée ses parents avant de venir s'installer à Paris. Et, bien sûr, ce qui s'est passé par la suite jusqu'à la mort de ses mêmes parents. Donc, et il le fait avec humour, mais il le fait surtout, je dirais, avec tendresse. Mm. Il porte un regard tendre sur la famille et on sait, vous savez sans doute, chers auditeurs, que la famille est sacro-sainte au Liban ou dans le monde arabe, je dirais, dans le monde de langue arabe. Donc, il porte un œil attendri sur cette vaste famille, sur les oncles, les tantes, la grand-mère, etc. Et c'est ça qui nous... c'est pas dénué d'humour non plus, hein, parce que juste le personnage de la mère, ça vaut le détour.
Ah
c'est
oui?
Une petite peau de femme qui est assez savoureuse, qui n'a pas la langue dans sa poche, disons. Alors, ils ont même recréé le Liban dans leur petit appartement parisien. Ils ont recréé le Liban et la culture libanaise, et c'est là qu'ils reçoivent les oncles, les tantes, etc. Donc, ce passage-là est assez savoureux. Mais n'empêche que les nouvelles du Liban ne sont pas bonnes.
Oui.
Alors, on voyage toujours entre l'horreur et l'humour ou la vie ordinaire, entre guillemets. Mais d'ailleurs, j'arrête tout de suite parce que l'extrait que vous avez choisi dit exactement ça. Comment l'auteur s'y prend? Enfin, comment le narrateur s'y est pris?
Il n'arrête pas de jouer avec son micro. L'idée d'être enregistré lui déplaît, mais pour son fils, il est prêt à faire un effort. Ma mère est dans la cuisine et me prépare un petit déjeuner. À chaque fois que je lui rends visite, elle me sert à manger. Elle pense ainsi me retenir plus longtemps dans son appartement. Elle n'arrête pas de parler, mais du salon, on ne distingue pas un traître mot de ce qu'elle dit. « C'est fou combien ta mère parle. Tu enregistres ce que je dis là ?»« Oui, papa. »« C'est très bien. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te raconte ?» J'avais préparé une liste de questions précises, et pourtant là, devant lui, je perds mes moyens. Je ne sais pas, papa. Tu ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tu me branches un micro sur moi et tu ne sais pas ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je fasse le travail à ta place? Donne-moi ton cahier, je vais t'écrire la question. Si, si, ok, je sais. Je voudrais que tu me racontes ton arrivée à Paris. Je suis arrivé dans l'avion. J'ai atterri à Orly. Papa? Oui? Sérieusement? Je suis très sérieux. Je suis arrivé à Orly avec ta mère dans ma valise. À l'époque, elle rentrait encore dedans. « Aïssar, ferme ta gueule !» hurle ma mère de la cuisine. Je me lève pour accrocher le micro à la chemise de nuit de ma mère. J'essaie de l'attraper entre deux activités. Ma mère est petite, très petite. Et comme souvent avec les gens de petite taille, elle est hyperactive. Elle me rappelle Nicolas Sarkozy. Là, elle cherche son iPhone qui résonne dans tout l'appartement. « Je t'aime, ô mon Liban, ô ma patrie, je t'aime. Par le nord, par le sud, par les plaines, je t'aime. » Sa sonnerie n'est rien d'autre que « Bhabbak ya Lubnan, je t'aime, ô mon Liban » de la diva libanaise Fayrouz, longue plainte nostalgique qui nous agace au plus haut point, mon père et moi.
Et c'est vraiment la chanson que je suis allée chercher. Oui, elle me fait penser à Nicolas Sarkozy. Oh, je l'ai trouvé tellement drôle, celle-ci.
Pour ceux qui veulent l'apprécier, ce passage.
Oui, bah, souvent, on s'en fout complètement. On s'en fout, mais alors, complètement. Alors, Je l'ai lu quelque part parce que je n'ai eu ni l'occasion de lire ni d'entendre encore ce livre-là, là qui était lu par l'auteur. Hein, c'est sa Bible
lui-même. Oui, ça je l'ignorais. Voilà. C'est bien lu. Hein,
hein,
bien
c'est
lu,
oui, 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 sans, oui. Il s'en sort bien. Ben, c'est parfois un peu malhabile, mais c'est pas grave parce que c'est lui, quoi. Et puis moi, je trouve ça aussi très agréable quand c'est comme ça. Mais à un moment donné, la guerre va un petit peu s'immiscer aussi dans le quotidien des Français. Hein, puis ça va. Oui, ça va les rattraper, quoi.
Ce qu'il raconte, enfin, la guerre qui éclate en 1975, à un moment donné, la guerre du Liban se transporte en France, se transporte en particulier à Paris. Et là, il va parler, bien sûr, des politiciens qui sont assassinés, des journalistes qu'on assassine également, etc. Donc, et d'ailleurs, il va comparer un peu la vie de ses parents, parce qu'il se promène beaucoup dans le passé. Hein. Il va aller de 75 à aujourd'hui, il va retourner en 75, donc il faut vraiment s'attacher, parce qu'on se promène beaucoup. Il va dire d'ailleurs à cet effet-là que la vie de ses parents, c'est un peu comme la guerre au Liban. Il dit, plus je m'y plonge, moi, j'y comprends quelque chose, parce qu'il va essaimer son texte de date, d'événements, de ci, de ça. Fait que le lecteur doit vraiment faire attention parce qu'on se promène beaucoup. Et moi, j'avoue que j'ai perdu pied à certaines occasions, mais ça n'enlève pas l'intérêt, bien sûr. Mais il s'est passé tellement de choses au Liban depuis 1975 qu'il en cite plusieurs. Et on peut à la rigueur, pas décrocher, mais perdre un peu son latin. Mm-hmm. Mais il faut vraiment s'y rattacher parce que c'est intéressant. Et surtout que cette famille-là est vraiment très, très chouette parce que c'est une famille très unie, même si les gens n'ont pas les mêmes idées en matière de, bon, musulmans, chrétiens, qui a raison, qui a tort. Ils n'ont pas forcément les mêmes idées, mais quand il s'agit d'être en famille, là, c'est la famille sacro-sainte.
Ah,
là,
oui, hein?
On se réunit et bien sûr avec les repas qui vont avec. Donc, ça c'est bien parce que la famille va passer vraiment au-dessus des partisaneries politiques.
Ça me fait penser à l'univers de notre regretté Abla Faroud, hein, qui était elle-même libanaise et qui a vécu ici avec ses enfants. Ils avaient même essayé une tentative de retourner là-bas. Donc, ils ont vécu un double choc. Quand ils sont arrivés ici, ils avaient reçu le choc de l'Amérique du Nord, parce que, qu'on le veuille ou non, mais on en fait partie. Puis quand ils sont retournés là-bas, ben, ils ont vécu le choc arabe. C'est quelque chose, hein, ouais.
D'ailleurs, Gossoub dit à ce sujet qu'il a voulu retourner au Liban, mais ses parents auraient aimé y retourner, mais lui-même a voulu y retourner, il y est retourné, mais finalement, il est revenu à Paris. C'est comme s'il avait grandi dans la culture libanaise, tout en ayant grandi en France, finalement. Donc, il partageait entre deux cultures, mais vu les circonstances, il a préféré rester en France.
Est-ce qu'il fait référence au Paris d'aujourd'hui? Et si oui, de quelle manière?
Pas tellement. Effectivement, parce que son récit se termine presque par l'explosion catastrophique du mois d'août 2020 à Beyrouth. Mais il ne va pas forcément décrire le Paris d'aujourd'hui, sauf quand il parle du petit appartement de ses parents et des repas que sa mère lui prépare, etc. Mais il ne parle pas tellement de Paris. Je dirais que Sarkozy est une des rares références françaises, finalement, dans ce livre-là. Encore une fois, c'est vraiment le partage entre deux cultures. Oui, il est comme déchiré. Mais bon, il a dû faire contre, comment on dit l'expression,
contre mauvaise fortune, bon cœur. Exactement. Mais et est-ce qu'il évoque aussi le problème du racisme latent, que ce soit dans la capitale? Non, pas du tout non plus.
Effectivement, non, parce que on a l'impression à lire les personnages amusants que sont finalement le père et la mère et les oncles et les tantes. On a l'impression que le racisme ne les touche pas.
Ah. Bon,
ils sont épargnés par ça, ou alors, c'est comme, parce que le roman papier, je crois, on y trouve également des photographies, bien sûr. Je n'y ai pas accès, mais ça pour dire que ce qu'on trouve dans les photographies sont les moments heureux. Je pense qu'il a vraiment mis l'accent sur tout ce qui se passe en France, c'est comme si ça faisait partie des moments heureux. Alors le reste, c'est au Liban, tant pis. Mais je pense qu'il a voulu montrer le meilleur. D'ailleurs, c'est pour ça que je parlais au début de tendresse. Il a vraiment un regard attendri sur sa famille. Voilà.
Bon. Eh bien, nous, on va revenir à Beyrouth sur Montréal. C'est comme ça que j'appelle nos routes.
Bon titre, d'ailleurs, oui. Bon, oui. Beyrouth sur Montréal, sur Seine.
Non, mais excusez-moi de faire cette référence, mais je suis tellement toujours catastrophée par les routes au printemps. Alors, ça me fait toujours très drôle. Mon cher ami, on vous retrouve. Je sais que parmi tous les livres que vous avez envie dont vous avez envie de nous parler, oui. Il y en a un, je ne sais plus le titre, mais attendez, je vais vous le dire. J'imagine que vous l'avez déjà lu. Ah oui, L'été où tout a fondu. Ça, j'ai hâte, ce sera pour le mois de mai prochain. Vous allez nous revenir avec ça. Alors, vous avez vraiment tout votre temps pour le lire et pour venir nous en parler.
D'accord.
Et puis, en attendant, vous en avez beaucoup sur la table de chevet ?
Oh, j'en ai à peu près 3000.
Alors on pourra tenir encore au moins 10 ans alors avec ça. Cher Gérald Cousineau, toujours un plaisir de dialoguer avec vous sur la littérature qui s'écoute. Et Dieu sait si vous en écoutez. Je vous souhaite une belle fin de journée, cher Gérald.
Pareillement, et à bientôt.
À bientôt. Des nouveautés dans le domaine du livre audio. On va commencer avec le petit dernier de Guillaume Musso, le prolifique Guillaume Musso, devrais-je dire. Ça s'appelle Quelqu'un d'autre. Si vous allez chercher ça dans le catalogue de Audiolib, qui a produit ce livre audio, sachez que le livre est suivi d'un entretien avec l'auteur. Alors ça, c'est toujours intéressant de pouvoir entendre ce que l'auteur a à dire de ce livre-là. Alors, Quelqu'un d'autre, c'est son petit dernier. Nous sommes sur la Côte d'Azur au printemps 2023, donc c'est vraiment tout récent, voyez-vous qu'il a écrit ça. Et la situation du livre aussi est tout à fait récente. On est au large de Cannes, il y a un yacht qui dérive entre les îles de Lérins. Et à son bord repose Oriana Di Pietro, qui est une éditrice italienne, héritière d'une célèbre famille milanaise, qui a été agressée sauvagement et qui va succomber après 10 jours de coma. Alors évidemment, l'histoire du bouquin, c'est qui a tué Oriana. Un homme et trois femmes livrent leur version différente de l'histoire. Il y a Adrien, le mari de la victime, qui est aussi un pianiste de jazz, tout ce qu'il y a de plus séduisant et mystérieux. Il y a l'insaisissable Adèle, qui est sa jeune maîtresse. Il y a Justine, la policière locale chargée de l'enquête. Et Oriana, enfin, à travers le récit bouleversant qu'elle fait des dernières semaines de sa vie. Évidemment, personne ne ment, mais personne n'est d'accord sur la vérité. C'est pour ça que l'on dit que c'est un livre vraiment fascinant et audacieux. Dans Les Échos, on pouvait lire cette critique. Plus contemporain que jamais, ce nouvel ouvrage est un solide suspense psychologique. Le Point, on peut lire ceci. La patte de Guillaume Musso est de ne jamais être là où on l'attend. Quelqu'un d'autre est un thriller pur et dur dans lequel s'exprime la fibre sentimentale de Musso. En voici un extrait de Quelqu'un d'autre et c'est lu par Rémi Bichet.
Qui était là ? Adrien ? Les enfants ? Cette petite garce d'Adèle Keller ? La peur zébra sa peau de décharges glacées. Elle s'arrêta à l'arrière du bateau, entrepris de se raisonner, s'interrogea de nouveau. De qui avait-elle peur soudain ? Elle se força à respirer à fond pour desserrer la tenaille qui lui mordait le ventre. Mais l'oxygène lui manquait. L'atmosphère était devenue poisseuse. Un souffle lourd, oppressant, incrusté en elle, collé à ses os. Elle se retourna encore. Oui, quelqu'un l'observait, qui se rapprochait jusqu'à la frôler. Elle se pencha vers la passerelle qui descendait à la plage de bain. Là, elle aperçut un canot pneumatique amarré au bateau, près de la plateforme hydraulique. Cette fois, elle ne put retenir un cri. Elle n'était pas folle, il y avait bien quelqu'un à bord. Les battements de son cœur pulsèrent dans ses tempes. Elle décida de remonter sur le flybridge, mais dans la précipitation, loupa une marche de l'échelle d'accès et retomba sur le pont. Lorsqu'elle leva les yeux, une masse sombre masquait le soleil. Une forme humaine se dressait au-dessus d'elle, vêtue d'une combinaison de plongée noire en néoprène. La silhouette était armée d'une baramine de petit calibre ou d'un tisonnier. Bien qu'elle soit coiffée d'une cagoule, on apercevait une bonne partie de son visage. En reconnaissant les traits de son agresseur, Oriana fut saisie d'effroi et comprit que toute lutte était vaine. Le premier coup l'atteignit à la tête. Le deuxième s'abattit sur son cou, sans lui laisser le temps de crier. Elle perdit connaissance, tandis qu'une giclée de sang se répandait sur le pont. Dans le ciel, des mouettes au plumage de cristal lançaient des cris stridents. Chapitre 2. Ce que l'on sait. Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. Friedrich Nietzsche. Une riche héritière italienne agressée sur son yacht au large des îles de Lérins. Nice Matin, 6 mai 2023. Oriana Di Pietro, une journaliste et éditrice italienne, fille de l'homme d'affaires Carlo Di Pietro, a été violemment agressée ce vendredi dans la soirée sur son yacht au large des îles de Lérins. L'irruption de la violence dans un lieu enchanteur est toujours déroutante. Le drame qui s'est joué vendredi en est une nouvelle illustration. Son cadre est l'un des plus beaux panoramas de la Côte d'Azur. Les eaux cristallines qui séparent l'île Sainte-Marguerite de sa voisine, Saint-Honorat. Une célèbre journaliste et éditrice italienne. C'est là que dérivait le Luna Blue, un yacht de 15 mètres appartenant à la famille Di Pietro. Aux alentours de 20h30, deux étudiantes de l'EDEC qui rentraient au port ont repéré un corps étendu sur le pont arrière du yacht. Montées à bord, les jeunes filles ont découvert une femme qui paraissait morte et ont alerté le CrossMed par radio, lequel a envoyé des secours immédiatement. La victime a été identifiée comme étant Oriana Di Pietro, 38 ans, célèbre journaliste et éditrice italienne, fille de l'industriel Carlo Di Pietro. Le corps de Madame Di Pietro portait de multiples lésions, laissant penser à une agression brutale à l'aide d'un objet contondant. Inconsciente et grièvement blessée, la victime a été évacuée vers le centre hospitalier Simone Veil.
Alors, qui l'a tué, comment, etc. C'est là, évidemment, tout le but de ce livre. Le petit dernier de Guillaume Musso, dont je vous rappelle le titre, « Quelqu'un d'autre », lu par Rémi Bichet et enregistré par Audiolib. Un livre maintenant, alors on change complètement de sujet, c'est peut-être un livre un petit peu moins facile. Cette fois-ci, c'est avec... Bon, Emmanuel Bayamaktam, ça c'est l'autrice, qui a écrit « Si tout n'a pas péri avec mon innocence » et c'est lu par Laure Calamy. Laure Calamy, ça vous dit peut-être rien, mais je ne sais pas si vous étiez accro comme j'ai pu l'être à un moment donné par la série qui s'appelait « Appeler mon agent ». C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître, elle avait un rôle là-dedans, elle était complètement irrésistible et depuis 2020, honnêtement, elle enchaîne film sur film et ce qui est très chouette, c'est que c'est pas le genre de comment dirais-je, vous savez, de très très jolie femme et qu'on l'engage parce qu'elle est super jolie, elle n'est pas super jolie mais elle est super bonne et vous allez l'entendre d'ailleurs dans l'extrait que je vais vous proposer de ce livre « Si tout n'a pas péri avec mon innocence ». Le petit résumé, bon, Kim, la narratrice, grandit dans le sud de la France, au bord de la mer, qu'on voit danser de temps en temps d'ailleurs dans ce roman. Alors elle est entourée d'adultes complètement immatures, cruels, déraisonnables, elle est affligée d'un bec de lièvre. Sa mère se lance sur le tard dans une carrière de stripteaseuse. Son père, qui a tatoué ses 5 enfants d'une étoile bleue sur l'occiput, brille par sa faiblesse et son insignifiance. Son grand-père est un insupportable fanfaron et sa grand-mère sombre peu à peu dans la folie avant de regagner l'Algérie fantasmatique de son enfance. Alors heureusement, pour l'aider à survivre à cette enfance calamiteuse, Kim a l'amour inconditionnel de ses petits frères. Elle a aussi la gymnastique rythmique, la lecture de Baudelaire et ses nuits fauves avec son prince ardent, sans compter qu'elle ne va pas tarder à rencontrer sa sorcière bien-aimée en la personne d'une sage-femme à la retraite. À moins qu'il ne s'agisse d'une vieille pute sur le retour, je ne sais pas, c'est comme ça que c'est écrit dans le résumé. En fait de retour, on assiste aussi à celui de Sharon, qui était déjà présente dans d'autres livres, notamment dans Une fille de feu. Et puis, comme dans les précédents livres d'Emmanuel Bayamaktam, eh bien celui-ci se propose d'illustrer quelques-unes des lois de l'existence. C'est un livre qui est emprunté pour les plus érudits parmi vous, dont je ne suis pas, aux métamorphoses d'Ovide. Alors, comme Philomène, Kim va survivre aux outrages, mais contrairement à Philomène, on ne va pas lui couper la langue, ce qui fait qu'elle raconte dans une langue que l'autrice a voulu à la fois triviale et très sophistiquée comment l'esprit vient aux filles. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et si ça s'appelle « Si tout n'a pas péri avec mon innocence », écoutez la lecture de Laure Calamy, c'est superbe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ma grand-mère s'adresse à la sage-femme. Il va pouvoir téter? Ce sera difficile. Ma grand-mère sent bien toute la satisfaction perverse que la sage-femme éprouve à formuler son diagnostic. Mais sans marquer d'émotion particulière, elle se contente de positionner plus judicieusement la bouche à vide de son enfant sur son sein douloureux. Contre toute attente, celle qui ne deviendra ma mère que 23 ans plus tard parvient à déglutir une gorgée de colostrum. Puis une deuxième, à la suite de quoi elle se rejette en arrière avec des vagissements de protestation. Car on peut compter sur ma mère pour le bruit et la fureur. Vous allez l'appeler comment ? Prise de court, ma grand-mère tente de se donner le temps de la réflexion et de maîtriser la panique qui la gagne. Entre le bébé qui hurle et la sage-femme qui la toise. Non qu'elle ait oublié sur quel prénom s'était porté son choix. D'ailleurs conjointement opéré avec le père de ce nourrisson qui écume et convulse entre ses bras. Mais dont elle ne sait toujours pas s'il est fille ou garçon. Sans consulter son ennemi, elle fait sauter deux boutons pression, laqués ton sur ton d'un verre unisexe. Nous sommes à la fin des années 60, les couches jetables n'existent pas et ma grand-mère se bat avec les épingles à nourrice qui retiennent les langes avant de parvenir enfin à démailloter ce qui s'avère être une petite fille, parfaitement conformée sur le plan génital. Submergée par trop de pensées incongrues, ma grand-mère se raidit mais se sent rattrapée par le même fou rire que tout à l'heure. Bang, bang, il aurait mieux valu que les malformations touchent la vulve de ma fille plutôt que sa bouche et son nez. Bang, bang, il aurait mieux valu ne pas lui acheter ce pourpoint de velours, inutilement splendide, ni la baptiser à l'avance de prénoms inutilement princier, qui aurait fait l'affaire pour un bébé normal, mais qui constitue un gaspillage. Voire une disgrâce supplémentaire pour le monstre que je viens d'engendrer. Au temps où l'enfant à naître ne faisait que bosseler par intermittence les flancs de ma grand-mère, les futurs parents avaient arrêté leur décision sur Léopold et Fabiola. Un choix qui, sous couvert de rendre hommage aux origines wallonnes de mon grand-père, trahissait sans doute leur rêve de grandeur à tous les deux. Que cela ne tienne, ma grand-mère habille et berce pensivement ce bébé qui la force à rengainer ses ambitions dynastiques, tandis que la sage-femme s'affaire autour d'elle. « Je vais vous apporter un petit palais en plastique, elle en aura besoin. Et puis je vais lui faire un biberon. Ça m'étonnerait que vous ayez du bon lait, vous êtes trop maigre. Je crois que je vais continuer au sein, on verra bien. Je connais mon métier, vous savez. J'en ai vu plein des comme vous, qui voulaient allaiter mais qui n'ont pas tenu 48 heures. » Autant vous éviter des souffrances inutiles. Ma grand-mère est bien persuadée que ce n'est pas le souci louable de lui éviter des souffrances qui anime sa persécutrice. Il n'y a qu'à entendre les petits claquements de langue faussement apitoyés qu'elle émet à chaque fois que son regard tombe sur le nouveau-né. Il n'y a qu'à voir l'insistance doucereuse avec laquelle elle revient sur la question du prénom, comme si l'urgence n'était pas de consoler la parturiente du choc et de la déception dont elle essaie tant bien que mal de se remettre et de cacher l'ampleur. « L'officier d'état civil ne va pas tarder à passer, vous savez. »« Pourquoi faire ? Il faudra que vous lui disiez, pour le prénom. »« Ou les prénoms, vous pouvez en donner jusqu'à 4. » Avisant ostensiblement le badge quadrangulaire arboré par la sage-femme à l'emplacement du cœur, ma grand-mère susurre avec perfidie « Pour une fille, on avait pensé à Gladys. » Un silence de mort s'abat sur cette salle dévolue aux naissances. Mais il faut croire que toutes les naissances ne se valent pas et qu'elles ne justifient ni les mêmes égards ni la même allégresse. Sous l'œil implacable et languide de ma grand-mère, la sage-femme s'empourpre et cherche une riposte qu'elle ne trouvera jamais. Et pour cause. Comment refuser qu'une enfant soit prénommée comme elle et sans nul doute en son honneur ?
J'adore. Je ne sais pas si je vais aimer ce livre autant que sa lectrice, « Si tout n'a pas péri avec mon innocence » d'Emmanuel Bayamak-Tam, lu par Laure Calamy. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Je m'appelle Clotilde Sey, j'ai animé pour vous et réalisé l'émission « Des livres pleins les oreilles » mise en onde par mon ami Mathieu Tessier. Merci à Gérald Cousineau qui, encore une fois, a illuminé de sa brillance cette émission qui ne se consacre, je vous le rappelle, qu'aux livres audio. Faites-le savoir que vous nous écoutez sur Canal M, à CKVL ou en balado. Salut.